écoutez On lit pour vous.
Le confort et l'indifférence. Une chronique de François-William Croteau, parue le 9 août 2023 dans Le Devoir. La semaine dernière, Aurélie Langteau nous parlait dans ses pages de climato-scepticisme. Son texte éclairant nous porte à réfléchir aujourd'hui sur ce que représente véritablement l'aveuglement volontaire de certaines personnes face à la crise climatique. J'emploie explicitement ces mots car il est difficilement concevable que dans un contexte tel que le nôtre, des personnes puissent encore douter de l'implacable vérité climatique qui se dévoile pourtant devant nous quotidiennement. Par d'étranges acrobaties intellectuelles, il est possible de faire dire une chose et son contraire à des données statistiques. On peut aussi détourner les faits ou leur donner une importance relative. On peut choisir d'insister sur des éléments de contexte et masquer de ce fait la réelle origine des événements climatiques. Ce qui est en cause ici ne serait-il pas ce que chacun devra individuellement abandonner ou changer pour résorber la crise, plutôt que la remise en question du facteur humain dans la dégradation de la planète? Cette résistance au changement est tout à fait naturelle, car personne n'aime être déstabilisé et devoir adapter ou modifier ses habitudes. Déjà, en 1981, Denis Arcand nous a bien présenté sous un autre jour combien l'humain peut être indifférent à sa propre précarité, car trop à l'aise dans son douillet quotidien. Aujourd'hui, le titre de cet excellent documentaire, « Le confort et l'indifférence », prend une toute autre résonance devant notre inaction individuelle et collective. Comme ma distinguée collègue, je ne crois plus tellement au climato-scepticisme. J'irai même plus loin, sachant très bien ce que représentent les abandons individuels nécessaires. Je crois que certains préfèrent adopter volontairement cette posture malgré les conséquences sans équivoque de leur inaction. Devant nous se dressent aujourd'hui plusieurs formes d'individualisme qui ont toutes pour origine notre mode de vie. Celui-là même qui est à l'origine de la crise climatique. De droite à gauche, l'individualité exacerbée oblitère toute action collective, potentiellement salvatrice pour l'avenir de l'humanité. Le bien commun est devenu l'ennemi de l'expression de nos besoins et de nos représentations individuelles. Les repères traditionnels ont changé et nous devons retrouver le centre commun d'une action collective face à cette menace pour notre propre avenir. Au-delà de chaque besoin prioritaire légitime, il en est un plus que les autres. Choisir, c'est abandonner. Du moment où tout droit et tout besoin individuel sont prioritaires, on choisit d'abandonner la cause collective. Or, cette posture assumée nous propulse chaque jour plus rapidement dans le précipice climatique. Nous vivons une saison estivale qui nous force à remettre en question ces mauvaises décisions passées avec lesquels nous devons composer tragiquement au quotidien. Cela ne doit en rien nous insensibiliser aux revendications légitimes des personnes qui se sentent opprimées, exclues ou marginalisées devant l'impératif commun. Bien au contraire, cela doit être un catalyseur d'une action collective inclusive et porteuse de changements plus profonds. Le système économique néolibéral nous a placés devant ce portrait social complexe. Nous devons tout mettre en œuvre pour remettre au centre des préoccupations des objectifs qui renverseront les paradigmes de ce système favorisant l'exploitation inconsidéré des ressources au bénéfice des besoins individuels. Chaque personne a toujours une bonne raison pour justifier le besoin de maintenir un privilège, si petit soit-il, que ce soit devant l'aménagement d'une piste cyclable, le retrait d'une collecte de déchets ou l'aménagement d'une rue piétonne. Cela nous démontre l'ampleur de la tâche pour le bien commun. Un clientélisme tout acabit, tel que nous l'expérimentons présentement, ne peut favoriser des décisions éclairées qui relèvent d'un processus ayant comme prémisse le bien commun. C'est dans ce contexte que nos décideurs publics doivent composer avec la difficulté de faire un choix parmi des intérêts divergents. Si la grenouille est bel et bien en train de bouillir dans la marmite, ce n'est pas en conservant une posture individualiste que nous allons éviter de cuire. N'est-ce pas cela, au fond, qui mène à l'indifférence volontaire face au portrait réel de la crise climatique? Sachant que nous allons perdre quelque chose, nous nous réfugions dans le confort et l'indifférence d'une marmite qui bouillira plus tôt que l'on croit. C'était « Le confort et l'indifférence », une chronique de François-William Croteau, parue le 9 août 2023 dans Le Devoir.
Les anglo-sceptiques dans le déni. Un texte de Sophie Durocher, paru le 24 juillet 2023 dans le Journal de Montréal. On connaît les climato-sceptiques qui refusent de reconnaître que la survie de la planète est menacée. Je vous présente les anglo-sceptiques qui refusent de reconnaître que la survie du français est menacée. Les climato-sceptiques remettent en doute le réchauffement climatique. Les anglo-sceptiques remettent en doute le remplacement linguistique du français par l'anglais. Les deux sont dans le déni. Des névrosés blancs nationalistes. Chaque fois que j'écris des chroniques sur la fulgurante ascension de l'anglais, je me fais traiter d'emmerdeuse par les anglos. Le multimillionnaire Mitch Garber s'en est encore pris violemment à moi parce que j'osais me plaindre d'un Canada qui méprise le français. Et Anne-Marie Wittenshaw est allée aimer une publication unilingue anglaise « To piss off » Sophie Durocher, autrement dit juste pour me faire suer. Que des anglos bilingues nient le danger qui menace le français, c'est une chose. Mais quand ce sont des francophones, ça me fait suer. Un francophone, Philippe C., m'a écrit un long courriel intitulé « Revenez-en ». Et voilà nos chialeurs perpétuels se plaindre encore et encore et encore à propos du français au Québec. D'abord, le français n'est pas la seule langue officielle. Ici, car ici, c'est au Canada, et au Canada, il y a deux langues officielles. Ce n'est pas parce que votre communauté de névrosés blancs nationalistes déclare autrement que cela change quoi que ce soit. Ensuite, oui, Montréal est bilingue. En fait, plus que cela, multilingue avec le chinois, l'espagnol, l'arabe, etc. Si cela vous irrite, vous pouvez toujours partir au fin fond du Québec où vous n'entendrez que du français, ou encore du français massacré à la québécoise. Vous êtes des dinosaures. Le problème étant que vous êtes des dinosaures dangereux, ceux qui veulent que leurs enfants restent aussi stupides qu'eux. Cela fait peur. Les gens parlent les langues qu'ils veulent, point à la ligne. Et ce n'est pas des petits despotes blancs et francophones qui vont changer cela. Vous pouvez vivre uniquement en français si cela vous chante. Mais ne venez pas nous emmerder avec votre défense du français. On est en 2023, pas en 1960. Welcome to the English Fest. Je vous parle régulièrement de commerces anglo qui se moquent du français, mais que penser des franco qui donnent des noms « in English » à leur événement? Comme nous le rappelait Gilles Proulx, le festival de la giblotte de Sorel-Tracy s'appelle maintenant le « Gibfest ». J'ai écrit aux organisateurs pour leur demander des détails. Le nom Gibfest a été accepté par le CA du groupe Gib, le fondateur du festival, et la ville de Sorel-Tracy en novembre 2017. Le cheminement fut tout simple, revitaliser un nom de festival historique sans toutefois le dénaturer complètement. Puisque la giblotte n'est plus un plat servi dans la région hors festival ou presque, conserver ce mot était moins optimal. Ainsi, gib est le diminutif de notre adorée et historique giblotte et fest tient pour le festival d'été de Sorel-Tracy. La beauté de la langue française réside dans sa complexité. Le gib, c'est big, est un palindrome, notre figure de style préférée. Vous en voulez une bonne? Hier, dimanche 23 juillet, c'était le Dolboat River Fest à Dolbeau. J'imagine qu'on doit se compter chanceux que le FEC ne s'appelle pas le Keb Summer Fest. C'était « Les anglo-sceptiques dans le déni », un texte de Sophie Durocher paru le 24 juillet 2023 dans le Journal de Montréal.
L'écureuil montréalais et ses bâtiments vacants, un texte de Maxime Bergeron, paru le 8 avril 2024 dans la presse. Cela me fait penser à la stratégie de l'écureuil qui accumule méthodiquement ou compulsivement les noisettes pour être certain de ne pas en manquer une fois l'hiver venu. La ville de Montréal fait la même chose avec les bâtiments. Depuis l'élection de Valérie Plante à la mairie en 2017, la ville a acheté une trentaine d'immeubles destinés à être convertis en logements sociaux ou abordables. Une enveloppe de 600 millions de dollars sur 10 ans a été réservée à ces acquisitions. Le plan est ambitieux, mais les résultats se font toujours attendre. La plupart des bâtiments achetés avec des fonds publics demeurent vacants et moisissent dans l'attente d'éventuels projets. Une situation difficile à avaler pour les Montréalais confrontés à une crise du logement historique. Un exemple pathétique me saute aux yeux toutes les semaines, celui de l'ancien hôpital chinois de Montréal, rue Saint-Denis, dans le quartier Villeray. La ville a payé 4 millions en 2019 pour racheter l'imposant bâtiment de briques rouges avec l'objectif d'y construire une quarantaine de logements sociaux. Les mal logés du quartier, et ils sont nombreux, avaient applaudi la transaction. D'autant plus que l'immeuble vide se cherchait une vocation depuis 1999, lorsque les activités de l'hôpital avaient été transférées vers le quartier chinois. Tout le monde a déchanté depuis. La conversion en logement confiée au Romel, un organisme à but non lucratif, au BNL, est dans un cul-de-sac. Le groupe a échoué à obtenir un financement provincial dans le cadre du défunt programme Accès Logis. Il ne s'est pas non plus qualifié au nouveau programme d'habitation abordable du Québec, PHAQ, ni à une subvention fédérale offerte par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL, m'a résumé Mazen Oudéib, directeur du Romel. Ce sont des fonds qui viennent de plusieurs sources. Ils ont tous des critères différents. Ils ne sont pas tous compatibles. C'est une vraie gymnastique, évoque Mazen Oudéib. Des montagnes de paperasse ont été remplies, des tonnes d'énergie ont été gaspillées, mais 5 ans après l'acquisition, rien n'a bougé. Le cas de l'hôpital chinois illustre les limites de la stratégie déployée par la ville de Montréal. Comme je l'écrivais plus tôt, l'administration Plante a consacré 600 millions en fonds publics pour acheter des bâtiments vacants et des terrains. La ville utilise entre autres son droit de préemption pour mettre la main sur des immeubles intéressants dans le but de les retirer du marché spéculatif. Ils sont mis en réserve pour être revendus à bon prix à des promoteurs, comme des OBNL, qui y feront du logement social ou abordable. Prévoyant, responsable, un bon plan sur papier. Mais voilà, cette stratégie est tributaire du financement des ordres supérieurs de gouvernement pour passer à l'étape de la construction. Ces investissements sont loin d'être à la hauteur des besoins et rien ne pointe vers un changement de cap à court terme. Dans ce contexte, une question mérite d'être posée. La ville devrait-elle ralentir la cadence des acquisitions et rediriger une partie des 600 millions de son enveloppe pour construire elle-même des logements à très court terme dans certains de ses nombreux bâtiments vacants? Réponse de l'administration, peut-être. Entendons-nous, la ville n'a pas l'intention de cesser de faire des acquisitions, mais elle est, en ce moment, en train de revoir toute sa stratégie immobilière, m'a indiqué Benoît Doré, responsable de l'habitation au comité exécutif. L'administration veut cartographier le chemin des possibles pour chacun des bâtiments vacants ou excédentaire dont elle est déjà propriétaire. En termes moins fleuris, elle souhaite identifier une vocation pour ses immeubles d'ici la fin de l'année 2024. Ce serait déjà un bon début. Plusieurs possibilités sont sur la table pour la suite, m'a dit Benoît Doré. Ce qui pourrait inclure la prise en charge de certaines constructions par la ville elle-même. Les prochaines acquisitions faites par la ville seront par ailleurs mieux adaptés aux nouveaux programmes de financement provincial, comme le PHAQ, m'a-t-il affirmé. L'idée étant de pouvoir passer très vite en mode construction plutôt que de s'asseoir pendant des années sur une propriété. Un grand ménage s'impose plus tôt que tard, c'est l'évidence. La liste des bâtiments vacants ou excédentaires détenus par la ville, plus de 70 au total, donne le tournis. Plusieurs sont dans un très mauvais état et considérés comme insalubres. J'ai obtenu à la mi-mars 2024 le détail de toutes ces propriétés, entre autres des incinérateurs, des églises, des garages, des bureaux, même des étables et un caveau à légumes. L'entretien minimal et le chauffage coûte déjà une fortune sans même qu'un seul logement soit construit. J'ai hâte de voir si la ville sera bel et bien capable de cartographier les destinées de tous ces immeubles d'ici la fin de l'année, comme l'a laissé entendre Benoît Doré. J'ai quelques doutes, vu la lenteur exceptionnelle qu'elle a mise à répondre à mes questions très simples sur le seul hôpital chinois. Ou ses difficultés à me dire combien d'argent a été dépensé à ce jour dans l'enveloppe d'acquisition de 600 millions. À court terme, le grand test sera la conversion de l'îlot voyageur en énorme projet résidentiel. L'administration Plante a essuyé plusieurs critiques, justifiées, en raison de sa lenteur à bouger dans ce dossier. Mais si les promoteurs se manifestent, après l'appel d'offres lancé le mois dernier, cela pourrait marquer un tournant dans la manière de redévelopper des sites désaffectés à Montréal. Ce projet semble presque condamné à réussir, car la patience des Montréalais, autant celle des contribuables surtaxés que celle des mal logés, est étirée au maximum. C'était l'écureuil montréalais et ses bâtiments vacants, un texte de Maxime Bergeron, paru le 8 avril 2024 dans la presse.
« un petit truc en plus, un bijou d'humanité. Une chronique de Patrice Côté, parue le 31 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. De loin le film le plus vu en France depuis le début de l'année, la comédie « Un petit truc en plus », en salle, débarque enfin sur les écrans canadiens. Il s'agit d'une œuvre magnifique qui inspire et fait rire. Mais à quoi fait donc référence le titre du film, coécrit et réalisé par l'humoriste Artus, qui tient aussi le rôle principal? En gros, à ce petit quelque chose qui fait qu'une personne est perçue comme étant « différente ». Ce peut être un retard intellectuel, un handicap, une condition ou une maladie. Dans le film qui se déroule dans la bucolique région française d'Auvergne-Rhône-Alpes, Sylvain, Artus, et la fraise, Clovis Cornillac, sont deux braqueurs de bijouterie qui, par un concours de circonstances, sont forcés de se cacher dans une colonie de vacances qui accueille une dizaine de personnes ayant un petit truc en plus. Forcés de s'intégrer, le premier à titre de pensionnaire, l'autre d'accompagnateur, ils vont rapidement découvrir et se nourrir de toute la joie de vivre et la simplicité qui habitent ceux à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Il est ironique que ce film d'une humanité gigantesque soit présenté chez nous au lendemain du dépôt d'un accablant rapport sur l'échec colossal du système scolaire néo-brunswickois à servir sa clientèle étudiante handicapée et à risque. Je souhaite de tout mon cœur que les ronds de cuir du ministère et toutes les directions d'école voient un petit truc en plus pour comprendre ce qu'est l'inclusivité réelle. Parce que, comme le montre le film d'Artus, oui, les gens vivant avec un handicap constituent parfois une clientèle difficile. Mais quand on voit plus loin que leurs différences, on réalise qu'on peut apprendre, grandir et devenir de bien meilleures personnes à leur contact. Artus met à l'avant-plan la simplicité et la capacité d'émerveillement de ceux qui ont un petit truc en plus. Alexandre, Thibault, Baptiste et Artaud n'ont pas besoin du plus récent modèle de cellulaire ou d'une voiture de luxe pour être heureux. Ils sont simplement bien ensemble, au contact de gens qui les aiment et les respectent, à faire des activités simples sur une ferme. Ces gens lumineux ne se soucient pas non plus du regard des autres. Les invectives du tordant Ludovic, qui n'a résolument pas de filtre, le démontrent avec éloquence. Ils préconisent aussi des valeurs d'entraide et d'empathie. Un exemple très rafraîchissant en cette ère de consommation, m'as-tu vu? Chapeau à Artus d'être parvenu à montrer le quotidien des gens vivant avec un handicap sans tomber dans les clichés. Il aurait été facile de faire dans la facilité et d'user de formules fleurs bleues. L'humoriste s'en tient loin et on ne peut que l'admirer pour ses choix. Le fait qu'Artus se soit entouré d'une distribution qui a un petit truc en plus est également tout à son honneur. Tout ce bon monde a d'ailleurs marché sur la croisette à Cannes au début du mois, un privilège pleinement mérité. Au-delà de son message d'ouverture et de respect, Un petit truc en plus est un film qui fait rire. Beaucoup. La malchance de Marie nous attendrit, tout comme les costumes extravagants d'un des pensionnaires et les discours pleins de verve d'un fanatique de Nicolas Sarkozy. Antidote à trop de choses qui clochent dans notre société, Un petit truc en plus vaut amplement le prix du billet. C'était Un petit truc en plus, un bijou d'humanité. Une chronique de Patrice Côté, parue le 31 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.
L'usine Kruger de Corner Brook, proche d'une explosion catastrophique. Un texte de Radio-Canada, d'après les informations d'Abby Cole de CBC, paru le 25 juin 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador. Selon un expert, l'incapacité pour l'usine de pâte et papier de Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, de maintenir le système de sécurité de pression de sa chaudière aurait pu entraîner un désastre. Desmond Saldanha, de la Canadian Boiler Society, affirme que le fait de ne pas maintenir la pression des soupapes de sécurité peut être très dangereux et provoquer des dysfonctionnements, des risques d'incendie et même des explosions. En avril, les activités de l'usine ont cessé pendant quelques semaines après que le gouvernement provincial eut constaté que l'usine Kruger de Corner Brook n'avait pas respecté les règles de sécurité. En mai, des documents obtenus par CBC dans le cadre d'une demande d'accès à l'information ont révélé que l'entreprise avait négligé d'inspecter les dispositifs de décompression du système de chaudière. 78 appareils n'avaient pas été entretenus depuis plus de 30 ans. Cela aurait pu être catastrophique, souligne Desmond Saldanha. Non-respect des mesures de sécurité. Les documents obtenus par CBC ont révélé que l'usine de papier de Corner Brook avait commis d'importantes violations du code et ne s'était pas conformée aux demandes du gouvernement provincial. En effet, un an avant la fermeture de l'usine, l'entreprise avait reçu pour instruction d'élaborer un programme visant à entretenir tous les dispositifs de sécurité et les systèmes de pression. Mais lorsque les autorités provinciales ont inspecté les équipements, elles ont constaté que le programme qui obligeait l'entreprise à entretenir les systèmes sous pression tous les ans ou tous les deux ans n'était pas mis en œuvre. La province a alors ordonné à l'entreprise de cesser d'utiliser les appareils jusqu'à ce que les problèmes soient résolus, ce qui a entraîné la fermeture de l'usine pendant deux semaines. CBC a demandé une entrevue avec l'entreprise Kruger, mais n'a pas encore reçu de réponse. En novembre 2023, la papetière Kruger a suspendu une semaine ses activités en raison des difficultés dans le secteur du papier journal. L'usine de Corner Brook est la dernière papetière sur l'île de Terre-Neuve depuis la fermeture de l'usine de Grand Falls, Windsor, en 2009. C'était l'usine Kruger de Corner Brook, proche d'une explosion catastrophique, un texte de Radio-Canada d'après les informations d'Abby Cole de CBC, paru le 25 juin 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador.